Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Quel plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode Aymeric, qui anime entre autres le podcast Anecdate. Un échange vraiment chouette avec ce jeune trentenaire solaire, dynamique et en perpétuel questionnement sur son rapport au corps, aux femmes et à l'égalité. À travers cet épisode, plusieurs thèmes sont abordés, notamment le rapport toxique à son corps que la comparaison au corps des copains adolescents dans les vestiaires de sport a engendré, la complexité d'évoluer en tant que transfuge de classe et tout ce que cela comporte dans sa propre sexualité et masculinité. On parle aussi avec Aymeric du rapport compliqué, des questionnements sur la taille du pénis, de son blocage à la pénétration vaginale et de séduction. Un épisode en somme politique, qui est un mot auquel est attaché férocement Aymeric. Et c'est un épisode très rafraîchissant, vraiment. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu de rencontrer Aymeric et d'échanger avec lui. J'en suis sortie vraiment avec de très très bonnes énergies. Donc merci vraiment du fond du cœur à Aymeric pour ce temps et de vous faire partager notre échange. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est Aymeric qui est en face de moi. Aymeric, ça fait une heure et demie qu'on parle.
Ouais.
Aymeric, tu as 30 ans.
Oui.
Depuis donc août dernier.
Exactement.
Tu as le podcast Anecdate. Tu fais plein d'autres trucs à côté. Et
yes.
C'est ce que je te disais, j'aimerais bien que tu te présentes comme tu le fais dans ton podcast à toi. Tu le dis en intro que c'est un hommage à Rokhaya Diallo. Et j'aime beaucoup la formulation, donc tu le fais faire à tes invités. Et donc vas-y, à toi.
Yes, c'est un hommage au podcast Kif Taras de Rokhaya Diallo et Grace Lee, et parce qu'elles demandent à leurs invités de se situer socialement et dans les sujets dont on parle, et notamment la sexualité, je trouve ça très important. Et du coup, moi, je me présente comme un homme cis blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire, parce que même dans mon rapport au date et à la sexualité, ça compte. Donc voilà.
Top. Juste avant de te poser cette première question que tous les invités connaissent et les auditeurs et auditrices, pourquoi Anecdate ? Comment c'est venu l'idée de créer ton podcast ?
C'est venu d'abord d'un truc marrant où mes potes, ils m'arrivaient, je sais pas si ça, on doit le préciser, mais c'est surtout mes potes meufs en fait qui me disaient qu'il m'arrivait tellement de dingueries parce que je leur parlais plus de ce qui m'arriverait sur ma vie sentimentale de date. Mm-hmm. Elles me disaient, oh, il t'arrive toujours des histoires rocambolesques, fais des story time. Et je leur ai dit, oh, hors de question que je me mette sur YouTube à faire des story time. Parce que j'avais toujours ce petit truc en mode, tu sais, une appétence pour la sociologie, j'aime bien tirer des leçons.
Et puis t'es un créatif.
Ouais, et je pense que ça ajoute, tu vois, j'aime bien peut-être conceptualiser le truc, mais au-delà de ça, même dans ma vie perso tous les jours, quand il m'arrive un truc, j'essaye d'en tirer, de me dire ok, d'avoir une grille de lecture politique. Et après, ça a été vite le constat, une évolution, c'était après la fac, tout ça. Et ça a été de me dire, bah, tu as vu, il y a plein de sujets, on n'en parle pas entre mecs. Et moi, je vais commencer par parler aux gars de chez moi. Bon, il y a eu une réalité qu'on connaît souvent, c'est que quand j'ai entamé de parler de ces sujets-là, c'est d'abord des femmes qui se sont réaccaparées,
ouais.
Ça. C'est souvent le cas.
Mm-hmm.
Mais là, ça va. Sur la dernière année, on touche de plus en plus de mecs. Il y en a mes événements. Mes potes ont commencé à écouter Anecdate aussi.
C'est cool.
Donc, ouais, je suis content.
T'as une audience plutôt féminine ?
Ouais, je te dis, ça s'est un peu rééquilibré, mais c'est toujours à majorité féminine parce que il y a beaucoup de fragilité au sens sociologique qui s'active chez les mecs quand tu sais, alors c'est très divisé, il y en a qui se prononcent pas. Une fois, je me suis fait arrêter par un mec dans la rue qui m'a dit « Ah, et tout, gros, en vrai, je kiffe, j'aime bien ce que tu fais. » Il m'a dit « Moi, je te dis direct, je suis pas un hater, je suis pas un gros droitard qui va t'insulter ou quoi. » Mais il y a des trucs... Je me demande parfois, est-ce que tu t'excuses pas trop d'être un mec et tout ? Et là, c'était intéressant, tu vois,
oui,
le positionnement. Il y avait juste une différence de sensibilité. On a parlé 25 minutes dans la rue. Ma meilleure amie a envie de m'insulter parce que j'avais oublié qu'on se baladait, tu vois, et je me suis engagé là-dedans. Mais c'était intéressant. Et après, il y a l'autre côté et c'est ça qui est intéressant pour la question, c'est on me voit souvent comme un traître.
Ah,
t'as pas honte et tout, tu donnes et tout, mais t'as aucun honneur. En gros, tu fais le jeu des femmes. Comme si, tu sais, c'était un jeu des femmes que je faisais. J'avais déjà mis ma gueule. Moi, c'est d'abord pour me libérer. Ma vie, elle va très bien. Genre, vous empêchez de plein de choses.
Ils pensent que t'es un peu genre en infiltration et tu joues le jeu, ouais, et machin.
Ouais, il y a ça. Autant, tu vois, quand ça vient de femmes, vu que politiquement, je suis très au fait de ce que je dégage et ce que je suis, je dégage, j'entends, au niveau de l'image et du propos, tu vois.
Le gars,
je suis
en train de dire qu'il a un charisme.
Je suis très au fait de ce que je suis. Donc, quand c'est une femme qui s'en méfie, et qui se dit peut-être c'est un pick me ou c'est un infiltré, je me justifie toujours. Moi, c'est ma position politique. D'accord. En tant que mec, tu te justifies. Tant qu'elle a des doutes, tu rassures les doutes. Parce que c'est ça vraiment comprendre le patriarcat, tu vois.
Donc toi, tu te considères comme allié ?
J'essaye de l'être, ouais.
Ouais.
C'est pas à moi de me fixer l'étiquette, mais j'essaye de l'être, pas que sur cette cause-là. J'essaye de l'être dans tout ce que je peux, tu vois, le validisme. Je dis souvent, je prône une inclusion totale, tu vois. Que ce soit sur... le genre des personnes, que ce soit sur... moi, je pourrais m'en aller sur d'autres sujets. Un accueil des sans-papiers total. Voilà, toutes les choses que je prône.
On va revenir sur notre sujet de prédilection. C'est quoi ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Alors déjà, ça m'évoque une première question. Je ne sais pas si je peux te la contreposer, mais c'est... qu'est-ce qu'on définit comme sexualité ?
Souvent, c'est là que l'invité va aussi donner sa définition, parce que pour certains, pour t'aiguiller un peu, pour certains, ça va être quelque chose qui est plus dans l'ordre du sensoriel. Donc, on est sur des souvenirs qui sont plutôt pré-adolescence, donc 5, 6, 7 ans, peut être, tu vois, des choses plus autour de la sensualité. Après, il y a certains invités qui vont parler tout de suite des premiers rapports au corps, à leur corps, donc pareil, pré-adolescence, adolescence, et t'en as qui vont directement aller sur la sexualité, stricto sensus, définition du Larousse, tu vois.
Ah ouais, c'est archi intéressant.
Donc, comment toi, tu l'anticipes ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en toi quand...
Ouais, moi, je pense que ça a été d'abord un premier souvenir de malaise, et ensuite, ça a glissé sur le... Pour le coup, c'est une anecdote. En gros, le malaise, c'est que j'étais en classe verte en CE2.
D'accord, donc et... 8 ans, quoi.
Ouais, CE2, c'était soit à 8 ans, soit à 10 ans. C'est CE2 ou CM2, tu vois, c'est l'un des deux. Et en gros, on est en classe verte et donc on est dans des dortoirs, on est 4 garçons. C'est très genré, tu vois, garçon ici. Sûr. Et donc, on est 4 garçons et il y a les gars de mon dortoir qui disent « Oh les gars, ce soir, tu sais, il y avait une armoire dans la chambre. Oh, ce soir, les gars, ce soir, c'est soirée branlette. »
Soirée branlette, ok.
Et moi, je sais pas ce que ça signifie, tu vois. Déjà j'ai un peu honte de regarder. Il y avait à l'époque, moi, ceux de ma génération, je pense que ça va leur faire écho, le guide d'usage sexuel de
Titeuf.
Bien
sûr. Tu sais qu'il a été ici, je pense que... tous les gars de ta génération le sortent.
Et il y avait ce truc, j'avais un peu honte de le regarder et tout. Donc du coup, quand j'entends ça, je me dis, ça me met une pression.
Ouais.
Et en plus, ils commencent à détailler. En gros, ils disent, chacun son tour, tu sais, dans le placard.
Fallait aller dans le placard.
Ouais, se branler, quoi, et tout. Ce qui est, avec du recul, hyper boulier et problématique, tu vois. Parce que je sentais bien qu'il y avait une espèce de vibe de... C'était pour tester, parce que j'étais le plus timide. Moi, j'étais le petit skinny babtou de mon environnement quand j'étais petit. Et j'étais, avant que ma mère me mette au théâtre et tout, j'étais un peu timide. Même, j'ai toujours été introverti. Et donc là, je sens bien. Il y a ceux qui sont à l'aise, il y en a un qui se prononce pas, mais comme c'est un de mes meilleurs potes, Amine, il est assez balèze, on va pas le faire chier, et je sens que c'est moi qu'on va tester, tu vois. Et donc il y a ça, et vient le soir, j'arrive à échapper au truc et tout, et on est couché, et donc on est tous couchés sur notre lit, et moi j'avais le lit en face de la porte, et la porte elle était ouverte, c'est-à-dire que la prof elle fait quoi le tour ? Elle fait un tour pour écouter si on dort bien, et je la vois, et j'entends les mecs dans leur lit de gauche, de ceux d'en haut, celui d'en haut et celui d'en bas, se branler, tu vois. Donc je comprends, je vois le lit, je les entends, bref. Et moi, je vois la prof qui entend ça. Je suis partagé de fou dans ma tête, où je me dis, est-ce que je fais la boucave, est-ce que je fais, tu vois, pour attirer le truc. Cette histoire se finit et je sais juste que je rentre chez moi avec, il s'est passé un truc, je pense pas que je mets le mot sexuel encore dessus, mais il vient de découvrir ça dans mon esprit. Et je vois d'autres trucs que je remarquais pas, tu vois. On est, si en effet on était en CM2, pour le coup, on était en CM2 parce que je vois que Il y a des garçons qui commencent à partir aux toilettes avec des meufs. Et tout. Je remarque des trucs que je ne voyais pas dans l'école avant.
On est sur la prépuberté.
Exactement.
Et c'est parfait la transition parce que du coup, tu rentres avec ça à la maison, tu n'es pas bien et tu te rends compte de pas mal de choses. Est-ce qu'à la maison, on parlait de sexualité ?
Oula, non. Déjà, on ne parlait pas à la maison.
Oula.
On ne parlait pas du tout. Donc,
Non,
on ne parlait pas du tout. Et de sexualité, encore moins. Et je pense que... J'ai pas envie de jeter la pierre à mes parents parce que qui sait, peut-être que si j'étais venu un jour, tu vois, avec une dinguerie, mes parents auraient assumé, mais après, bon, vu le profil et vu que je les connais avec du recul, je pense pas. Mais bref, je viens d'un foyer très taciturne, donc on parlait pas, tu vois, de sexualité. Et moi, j'ai pas de.
C'est ce que j'allais te demander, t'as pas de frères et sœurs ?
J'ai une grande sœur,
oui.
Mais elle est vraiment plus vieille que moi et c'est une sœur.
Oui.
Tu vois, donc c'est délicat. Et j'ai un petit ref. Et mon petit frère n'ont pas, pas de dialogue à cette époque-là.
Okay. C'est nul la place du milieu. Hein.
Ah, merci de le dire. Toi aussi ?
Ouais.
Ah, merci. Ouais, c'est terrible. Et en plus, je vais te dire encore plus complexe parce que ma grande sœur, c'est ma demi-sœur. On n'a pas été éduqué là-dedans, mais c'est ma demi-sœur. Ça veut dire que je suis l'aîné de mon père, mais je suis au milieu du foyer.
Ouais.
Pff, c'était tendax de
pas
fou.
Simple.
C'était,
pas simple.
Ouais, c'était.
Ok, donc du coup, tout se fait grâce au guide du lycée sexuel finalement ?
Que je n'avais pas, mais
ah,
tout se fait. Non, c'est pour ça que je te dis, j'avais honte de le regarder à l'école et tout.
Okay.
Et ouais, pour reprendre sur ce souvenir, je rentre avec, je suis à CM2, et je pense que le deuxième souvenir, c'est, tu sais, il y a à l'époque des films de TF1, mm-hmm. Mais sauf que comme tu as école le lendemain, tu ne peux pas les terminer en entier.
Tu t'arrêtes à la pub.
Et moi, comme je dis souvent, ma première éducation sexuelle, elle s'est faite grâce à James Bond. Parce qu'en fait, tu re-regardais James Bond, il y avait toujours la scène de cul. Avec
ouais,
la meuf.
Ouais, ça restait. Okay.
Mais je mets des gros guillemets, mais c'est ça qui est intéressant.
D'accord.
C'était une scène où tu, en gros, grosso modo, des draps, ils glissent. Enfin, tu vois avec l'œil de gamin que je suis le truc comme ça, tu comprends juste que le cul, c'est un truc qui glisse direct, très propre.
Mm-hmm.
Et moi, j'en retiens que c'est un mouvement horizontal où il faut faire ça.
D'accord.
Et donc, comme je t'ai dit, eux, les gars, ils sont branlés, mais je sais pas comment ils ont fait. Et je me souviens que donc du coup ma première branlette, c'est genre ça doit être un an et demi après quand je suis en 6e 5e.
Oui, du coup ton corps commence
et qu'en fait c'est juste genre je me frotte contre mon matelas, tu vois, parce que je refais dans James Bond en fait. Et c'est vraiment c'est le premier truc qui
c'est très mignon.
C'est ouais, c'était et en fait quand je le regarde, je me dis ah ouais, t'avais aucun élément d'accroche et tout. Et parce que moi aussi ce qui joue peut-être, on en parlera plus tard, mais c'est que j'ai eu aucune éducation au porno. Aujourd'hui, j'en consomme pas, tu vois, quasiment pas.
Parce que t'avais pas accès à Internet à la maison ?
Bah, l'ordi, c'était bourbier où il était.
Ouais.
Et en fait, j'ai grandi dans un foyer où t'avais pas d'intimité. Moi, jusqu'à 19 ans, j'étais dans la même chambre que mon frère.
Oui. Donc, compliqué.
Et ouais, et après. Donc, ça joue en vrai sur tout
bien
mon
sûr,
rapport
sur
à la sexualité.
Sur l'intimité, sur sa safe place à soi, etc., bien sûr. Et puis, j'imagine, effectivement, vous êtes trois enfants dans la salle de bain, tu peux pas y rester des heures. Enfin,
c'est ça.
Ouais, ouais.
On te tape pour dire, l'eau chaude. Donc, tu peux pas te cacher derrière la douche. Tu peux pas. Ouais. Si tu vas trop aux toilettes, on va dire, t'es malade ou quoi.
Ouais,
et donc, tu dois ensuite faker une gastro juste pour te branler. Non, c'est bon.
Cette phrase est incroyable. Ok, donc du coup, comment ça se passe le rapport à la puberté ? Donc, tu arrives effectivement au collège, les corps changent, ça bouge. Alors, c'est vrai que chez les jeunes femmes, c'est très significatif. Chez les garçons, c'est un peu plus en douceur, quoique parfois il y a des poussées à la puberté qui sont assez, assez visibles. Comment toi, tu gères ça, ce changement de corps ?
Alors, je suis très. Alors, il y a un truc sur ça, je pense qu'on y reviendra vers la fin, dans la dernière partie, parce que je m'en suis rendu compte récemment. Mais à l'époque, pour me remettre dans le contexte de l'époque, je suis quand même très. Pas exposé à être complexé. Je dirais pas ça, parce que je vois bien qu'il y a plein d'autres. Il y a d'autres gens qui ont vécu pire. Par contre, j'étais très gêné quand j'étais petit. Et j'ai gardé ça longtemps, jusqu'à quasi l'année dernière.
La pudeur ?
J'étais gêné par tout ce qu'il y avait de sexuel, de rapport au corps. Et par exemple, j'ai commencé à faire du basket quand j'étais au collège.
Mm-hmm.
Et il y avait cette règle que, pareil, avec du recul, je trouve un peu débile, que notre coach, c'était une femme qui avait instauré ça, où elle voulait pas de différence dans sa tête. Je sais pas, ça devait être pour souder l'équipe. Elle voulait que tout le monde se douche. Mais quand tout le monde se douche, c'était tout le monde se douche à poil. Donc c'était un peu imposé, ça, tu vois.
Waouh, c'est violent sur des ados. Hein.
C'est violent de fou. Et sauf que quand t'es dans une truc où moi je le répète, j'étais le petit skin bab tout de mon équipe, et tu grandis quand même avec ces clichés là, tu vois, qui commencent à tourner parce que t'es adolescent, donc les garçons ils te disent, tu vois, nous on en a une comme ça parce qu'on est comme ça et tout.
Ouais.
Ouais, une pression de fou. Mais vraiment, je te dis, c'était la boule au ventre. C'est-à-dire que j'inventais des subterfuges de zinzin. Il y avait une porte sortie de secours dans le vestiaire. Donc, c'est vrai, moi, j'allais et je taillais. Et quand le lendemain, et les gens, ils repéraient, quand ils me disaient, hey, la dernière fois, tu t'es pas douché et tout, j'ai dit, mais non, mais parce que mon père, en fait, il m'attend. Et du coup, faut que je me douche chez moi et tout. Et en fait, c'était.
Ah ouais, c'était l'engrenage de.
Ouais. Et c'était trop chelou parce que du coup, tu ramènes à la maison des questions où de base, t'es bien avec ton corps, tu te poses même pas. Moi, je calais même pas. Par exemple, j'étais petit, c'est un truc qui m'a jamais. J'étais pas le plus petit du monde, mais j'étais petit.
En termes de taille, t'étais plus petit que les
autres.
Ouais,
non, à cette époque, en vrai, si, j'étais le petit, j'étais vraiment le court de l'équipe. Mais du coup, tu commences à te poser des questions sur des trucs qui tapent même pas dans le crâne de base. Et là, tu commences à dire ah ouais, donc tu commences à prendre une règle, à mesurer ton sexe. Et tu commences à taper des trucs. Et parce qu'après, j'ai découvert comment on effacer l'historique sur l'ordinateur. Donc, j'ai pu poser quelques questions à Google, à Wanadu à l'époque. Mais donc, du coup, tu commences à dire des trucs comme ça. Et ouais, je dirais, j'ai une adolescence où j'étais gêné. Et j'étais gêné même dans mon comportement. Donc, ça allait au-delà du corps.
C'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose que tu crées toi-même. Tu vois, vraiment.
Il y a des injonctions sociétales, forcément.
Bien sûr, mais tu les embrasses complètement. Alors que. Pour le moment, t'as pas subi de moquerie directement. Non. Enfin, tu vois, donc c'est fort quand même le poids de la société. Là, est-ce que ça peut engendrer, comme tu le dis très bien, sur un môme qui, a fortiori, a pas forcément de raison. Tu vois.
J'irais même au-delà de ça. C'est pour moi, c'est vraiment le poids de la masculinité à ce moment-là, parce qu'en fait, il y a une célèbre phrase de Virginie Despentes qui dit oui, en gros, les hommes, ils font tout pour eux, ils se regardent constamment. S'ils aiment tant se regarder, qu'ils commencent aussi à s'enculer eux-mêmes, tu vois.
C'est vraiment très Virginie Despentes.
C'est oui,
ça.
C'est très elle, tu vois. Mais en fait, elle est très vraie, cette phrase. Mmh. Parce que, avec du recul, je me dis que t'accordes pas de l'importance à comment tu te vois dans le miroir, t'accordes de l'importance à qu'est-ce que les autres projettent sur toi. Alors qu'ils ont même pas vu ton corps encore.
En l'occurrence, les hommes. Là,
ouais, les hommes. Les moi, les gars avec qui j'ai grandi. Alors si t'as, tu commences à être en moule bite à la piscine parce que vous avez ces cours de piscine là et tout, etc. Le vrai premier trauma où il vient, c'est qu'un jour, je suis à un anniversaire et tu connais les anniversaires d'ado. Et vas-y, ils se décident à un moment, on se baigne et ils se décident à un moment de dire on enlève le maillot à toi. Tu vois.
On va t'enlever ton maillot de bain. Ah, waouh.
Donc on va te balancer dans la piscine et on va t'enlever le maillot, tu vois. Déjà, je pense qu'ils font ça parce qu'ils sentent que je suis gêné.
Que t'es en insécurité par rapport à ça, bien sûr.
Pour ça. Et je te le dis, et ce qui est fou, et c'est vraiment ça le rapport à la masculinité, c'est que par contre, quand je suis chez moi, en gros, je me dis pas, ah j'ai un petit... Quand je suis tout seul chez moi, je complexe pas. Je me dis pas, ah j'ai un petit sexe ou quoi. C'est quand je suis avec les autres, parce que j'ai ce truc de masculin de commencer à me comparer avec les autres.
Bien sûr.
Et par contre, ils m'enlèvent ce maillot. Et ce jour-là, il y en a un qui me taille, tu vois, qui se moque. Et ça m'est resté en tête. Il n'y a que lui qui a dit la phrase, il n'y a que lui qui l'a entendu, mais ça m'est resté en tête. Et en vrai, ça m'a, et on y reviendra plus tard, et je crois que ça m'a suivi toute ma vie, pas en mode complexe, mais en mode, en me disant, bon, ben, en gros, vu ce que les garçons ont dit, et que les garçons projettent ça sur moi, j'ai un sexe de taille normale, tu vois. Parce qu'après, tu grandis et donc ça va, tu récupères sécurité, t'apprends qu'il y a sexe de chair et sexe de sang. Donc, ce qui compte, c'est autre chose.
Tu sais comment on dit en anglais ?
Non.
C'est très... J'en ai parlé dans un autre épisode. On appelle ça « grower » et « shower ».
Ah ouais ?
Ce qui est un peu plus joli. Parce que vraiment, moi, quand j'entends « pénis de sang » et « pénis de chair », il y a un peu religieux. Tu sais, ceci est mon...
Ouais,
c'est chelou.
Religieux et boucherie à la fois, à chaque fois.
Boucherie religieuse, on est d'accord. Alors que « grower » et « shower », je trouve que c'est un peu plus stylé.
Voilà, de fou malade. Bah, voilà. Les Anglais, souvent, leur langue est plus directe, donc plus stylée.
Plus stylée.
Mais en gros, c'est ça. Donc, quand tu vieillis, ensuite, tu te...
Oui, tu te rassures.
Ouais, tu te repositionnes.
Et puis surtout, la taille... Alors évidemment, encore une fois, loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas un sujet, etc. Parce que je sais à quel point ça peut être compliqué. Mais mis à part, tu vois, d'un point de vue physiologique, s'il y a vraiment une gêne ou vraiment un micro-pénis, et j'ai eu l'occasion d'interviewer des hommes qui étaient un peu en deçà de la moyenne, c'est pas très important.
Non, mais le pire, c'est qu'en fait, toute l'image qui est forgée des mecs, c'est que à ce moment-là, quand on est adolescent, c'est qu'ils regardent des films de cul. Crois-moi que les sexes que tu vois dans les films de cul, c'est pas les sexes que tu crois dans tes vestiaires de sport.
Et Dieu merci.
Et moi, j'en ai reparlé avec un pote à moi avec qui j'ai grandi plus tard, qui était un homme racisé Et je vais te dire, je pense que c'est ça qui m'avait rassuré à un moment dans mon adolescence. C'est qu'un jour, il se déshabille dans le vestiaire et lui, c'était le mec que personne testait de l'équipe, tu vois. C'était les gros bras et tout, c'était un des joueurs les plus forts, donc personne ne testait. Et moi, je me souviens que quand je le vois ce jour-là, il y a un biais très raciste, mais qui est présent quand t'es adolescent, puisque tous les clichés, tous les jeunes en jouent de ces clichés. Je me dis, ah oui, mais par rapport en fait à ce qu'ils disent, c'est pas si grand que ça, là.
Déçu, finalement.
Ouais, tu sais, il y a ça, et je me dis ça. Et du coup, en termes d'ado, je pense que hop, ça a commencé à me recentrer, à rebaisser la remarque que j'avais entendue quand il m'avait baissé le maillot, qui au final n'était pas...
Et puis, il y a le fantasme de l'adolescent. Enfin, tu vois, quand t'es ado, tu vis tout très intensément, tout est très dramatique, tout est très joyeux, etc. Donc, effectivement, c'est pareil. Tu projettes, effectivement, voir la réalité et voir, effectivement, ce sexe de jeune adolescent qui a... Enfin, tu vois, avez le même âge et tout ça. Oui, ça a dû être finalement... Ah, finalement, c'est que ça. Ah ouais, je comprends.
Ouais, tu vois, c'est à ce truc où tu recentres et...
Et c'est fou. Ouais, c'est très pénicentré quand même, ce début de rentrer dans la masculinité.
Ouais, de fou. Tu passes de la gêne à ça, en plus.
Donc, T'es pas sécure.
Non, pas du tout.
Donc, t'es au collège, etc. Comment ça va se passer pour toi, l'apprentissage du flirt, de la sexualité Est-ce que, assez naturellement, c'est les filles que tu regardes? Est-ce que...
Alors, oui, c'est les filles que je regarde, mais je pense que tu as ce truc aussi qui va avec, au-delà. Alors c'est très sociétal, peut-être que c'est encore plus le cas dans les zones où j'ai grandi, mais dans tous les cas, tu vis tellement dans un truc hétéronormé que oui, ton premier réflexe, c'est limite, tu te dis, c'est les filles que je dois regarder, tu vois.
Ouais, il n'y a même pas de...
Donc,
de
mais réflexion. Moi, en l'occurrence, oui, tu vois, je suis sur ça, mais... Je les regarde amoureusement, pas sexuellement, parce que le sexe, ça me gêne. Mmh. Donc, j'ai ça. En tout cas, là, si on parle de l'époque où... déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, j'ai eu une adolescence, et ça, jusqu'au lycée, j'étais invisible. J'existais pas, tu vois. Genre, j'en ai parlé dans ma newsletter de hier. Bon, elle sera sortie un moment quand vous écouterez ça, mais vous pouvez la retrouver. Mais je rendais hommage à une jeune femme qui s'appelle Oriane parce que c'était une bourgeoise du groupe Hype du collège. Et en gros, elle s'en souvient sûrement pas, mais c'est l'une des seules filles qui m'a rendu visible parce qu'elle m'adressait la parole gentiment et tout. Et donc, forcément, je le conscientise en étant adulte aujourd'hui. Mais du coup, il y a d'abord un rapport très marqué où je suis invisible. Je n'existe pas sur le plan de la drague, de la séduction. Pour d'autres choses, je suis encore plus invisible de par la classe sociale d'où je viens et tout. Mais, tu sais, comme je le dis, quand tu es pauvre au collège et que tu es quand même dans un collège où il y a des bourgeois, tu as une des manières d'exister, c'est le sport. Parce que justement, l'un des seuls outils qu'on te donne quand tu es pauvre, c'est ton corps. Et moi, à ce moment-là, mes potes, ils sont forts en sport. Mais moi, je suis nul en sport. Donc, je suis nul en sport. Et en plus, à l'école primaire, on m'avait élu plus moche de la classe. Donc, grosso modo, je te jure, c'est moi, je m'en souviens de toute ma vie de cette scène.
Alors, pourquoi qui fait ça?
Ah, en plus, j'ai lu une... je rentre pas dans les détails, je donne juste l'étude de Wilfried Ligné et Julie Pagis qui se sont intéressés à pourquoi les enfants font toujours des classements. Ils ont fait toute une thèse sur ça, c'est ultra intéressant.
Ah ouais, ouais.
Et donc, du coup, les enfants font des classements depuis toujours. Et moi, j'en souviendrai toute ma vie parce qu'on était à la primaire. Et je ne citerai pas son nom, mais il y a une fille qui a dit... Elle a dit, bon, on fait le classement du plus moche de la classe. Bon, dernier, Emmerich, après. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de débat. Ça me fume en y repensant.
J'ai envie de te faire un câlin. Non.
Mais par contre, c'est intéressant parce que du coup, je rentre aussi, tu vois, dans le rapport à la séduction et tout avec ça.
Ah non,
en me disant...
Ça me fait de la peine.
Ben, c'était.
Ça me fait un peu rire parce que là, tu le racontes avec beaucoup d'humour, mais je trouve que c'est d'une violence.
C'est.
Dans sa construction à soi. Enfin...
Franchement, je vais être honnête avec toi, c'est ma psy qui, au bout de un an et demi, deux ans de thérapie, je prononce la phrase dans son cabinet. Ouais, non, mais en fait, je crois que j'ai pas eu une enfance assez facile. Et elle m'a dit, ah ben. Quand même, en gros, genre, ça fait un an et demi, gros, qu'on en parle.
J'attendais que ça.
En gros, t'as normalisé les choses. Donc, non, mais sans faire le calimero et tout. Et puis après, c'est des trucs d'enfant, j'en veux pas aux personnes, j'ai aucune rancœur et tout. Mais oui, ça te. Donc, du coup, je rentre dans ce truc au collège, je suis invisible, tu vois.
Ça reste des épisodes traumatiques, même si effectivement, t'en as fait une forme de résilience et aujourd'hui, t'en rigoles et t'es passé au-dessus de ça parce que t'es intelligent. Ça reste des moments.
Ça te forge.
Voilà, qui sont quand même, faut dépasser. Ça te... Donc, ok.
Donc, ouais, le collège, je rentre avec ce truc-là de me dire... et franchement, en vrai, hommage à ma mère, parce que je pense qu'elle m'a légué, au-delà du signe astrologique Lion qui fait que j'ai vite eu... Elle m'a légué un truc de t'es chez moi, j'ai pas non plus... Je sais qu'il y a des gens qui ont plus souffert que moi. Je sais qu'il y a des ados qui ont plus souffert que moi. Bien vraiment, sûr. Tu vois, qui vivaient plus mal les choses. Moi, je sais pas, j'avais cette distance de me dire, bon,
okay.
Je suis plus moche de la classe...
Mais allez,
je
relâche,
tu vois, genre, c'est bon, on avance. Et je m'étais fait au truc du fait d'être invisible, en fait. Et je pense que chez moi, quand ma mère me laissait beaucoup m'exprimer sur, tu sais, mon art, mes trucs et tout, j'étais pas... Enfin, voilà, tu vois, ça allait. Et, mais donc, du coup, pardon, je me suis égaré, mais dans le rapport à la sexualité, la séduction, jusqu'au lycée, invisible.
Mm-hmm.
Au lycée, ça change parce que je tombe dans une classe où il n'y a personne de mon ancien collège et je peux être moi-même.
D'accord.
Et là, les gens me découvrent autrement. Sur les filles, on me cala toujours pas, mais là, c'est une histoire juste bête et méchant. Que
mais t'es friendzonée.
Je tente pas.
Ah, même pas.
Parce qu'il y a grave un rapport de... Si tu tentes pas, t'échoues pas.
Okay.
Et les garçons, j'ai encore ce truc de garçon de l'échec.
D'accord, le râteau.
Ouais, le râteau, ça et tout. Je me dis, je reste à ma place, tu vois. T'as encore ton diplôme de plus moche de la classe, reste à ta place. Tu t'aventureras plus tard. Et donc vraiment invisible et tout. Mais par contre, là, oh, oui, il y a une fille qui s'appelait Clémence, elle faisait d'italien, la vie de ma mère, comment j'étais amoureux d'elle. Mais tu sais, amoureux, tu crois que t'es amoureux, mais c'est juste, tu la vois, elle était trop belle. Je la voyais en 4D dans les trucs du lycée et tout. J'ai essayé, c'était l'époque de Facebook, donc j'ai dû faire un POC que j'ai retiré ensuite.
Avec la goutte là sur le
fond. Ouais. Mais non, et donc du coup, si par contre je finis. Déjà, je mens, parce que tous mes potes ont déjà fait des trucs et tout. Donc moi, je dis que je l'ai fait aussi. C'est faux.
Classique, hein.
C'est faux. Et au final, arrive la première, la classe de première, et je fais ma première fois.
D'accord.
Où en gros, il y avait une fille pour qui j'étais pas invisible parce qu'on se connaissait depuis longtemps. Donc je fais ma première fois avec elle, mais qui est. Qui est un peu, j'en garde pas un bon souvenir parce qu'aussi elle a été, en fait elle était très méchante, tu vois.
Méchante?
Ouais, tu sais, en mode
C'était sa première fois aussi?
Non.
Mais alors du coup, vous décidez de faire votre première, enfin ta première fois, vous êtes ensemble ou c'est plutôt un espèce
non,
de...
Non, il y a un peu un rapport de, déjà elle veut pas qu'on s'affiche, elle veut pas qu'on soit vu ensemble. Et moi, je me fais un peu berner par ça, je suis naïf.
Peu, ouais.
Genre je me dis, non, mais t'as vu, pour vivre heureux, ils vont cacher, elle a peut-être raison. Et tout.
T'es trop mignon parce que tu t'accommodes ouais. De toutes les situations.
Alors Bellec, les gens qui écoutent ça a changé. Venez pas, s'il y a des gens qui me retrouvent, qui voient mes DM, je m'accorde plus des gens. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Mais oui, et puis non, mais ça m'arrange. Parce
bien
que je sais que si je reste caché,
ouais.
Je vais peut-être pouvoir coucher.
Peut-être
chose
de...
où là, je commence à en avoir envie. Tu vois. Surtout que c'est une époque où j'ai toujours pas d'intimité.
Donc
moi je suis dans la... donc ouais, il y a des trucs que dans ma tête d'ado, c'est... parce oui. que t'es un ado en vrai au lycée
bien
encore.
Bah après c'est hormonal, enfin
ouais,
ça urge à un moment donné, faut oui.
Et surtout que moi je consomme pas de porno non plus, donc voilà.
Tout dans la tête.
Ouais, tout dans la tête, tout dans l'imagination, et j'ai en gardé ça encore aujourd'hui en vrai. Et donc du coup je fais ma première fois, et tu sais, elle est un peu, en vrai elle est un peu bully, tu vois, avec moi, donc pas top. Et c'est pour ça que je sais pas si sur cette période là j'ai tant à dire, ne serait-ce que retenir ce qui m'a par contre forgé pour quand ma sexualité a vraiment débuté, c'est le côté genre invisible, personne me donne l'heure. Et par contre, je rentre à la fac.
Mm-hmm.
Et là, déjà, gros changement, je passe de BlackBerry à iPhone. Ça veut dire que sur l'iPhone, je commence à avoir Instagram et je peux installer des applications de rencontres. Mm-hmm. Et là, la fac. Et attention, la fac, tu vois. Genre là, c'est autre chose.
Faudrait mettre un petit son.
Ah ouais, là, vraiment, il faudrait une immersion de l'époque. Non, là, la fac, c'est... Et la fac, et en plus, je sors du lycée où...
Tu fais une fac de quoi ?
Je commence une année de droit. Je dois arrêter pour des raisons familiales. Et donc, du coup, je dois prendre un travail, grosso modo. Mm-hmm. Je deviens assistant pour un enfant autiste.
Mm-hmm.
Et ça a changé ma vie parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à écrire.
Mm-hmm.
Et bref, et ensuite, derrière, je me retrouve dans mes vraies études de communication à l'ISIC à Bordeaux.
Donc, en plus, une voix assez féminine.
Eh ouais, bah là, tu vois, tu touches un point. Mmh. Dans mon amphi, c'était 188 filles, 12 garçons. Sur les 12 garçons, il y avait 50-60% qui étaient gays. Donc, ma gueule, dans l'amphithéâtre, en sachant que je sors du lycée, et au lycée, je me suis un peu plus incarné. Donc, là, je commence à avoir un peu confiance en moi et tout.
Tu prends un peu de place, quoi.
Et là, ça y est, en fait. Et là, là, ma vie... Après, je sais pas comment on va en parler, mais là, là, ma vie de date et sexuelle, elle commence maintenant, quand j'ai 20 ans, quoi.
Et donc, comment ça se passe?
Au début, t'as... En vrai, moi, le fait que... Je précise qu'il y ait les applications de rencontre à Instagram, ça me permet de me... Comment dire? Là, je suis plus invisible parce que sur les applications et Instagram, t'écris.
Donc, le contact.
Ouais. Et quand t'écris... comme j'écris, là, je pouvais pas être invisible. C'est-à-dire que genre, je me rends vite compte que j'ai une appétence que je sais faire. Tu vois, la chèb, entamer les conversations, me démarquer.
Là, t'es sur ton
ouais, là,
zone
je suis,
de confort.
Je suis sur, sur quand il faut s'exprimer et tout. Du coup, je commence de plus en plus à m'incarner. Et donc là, je commence à fréquenter des femmes. Et en vrai, il y a deux femmes qui ont tout changé. Alors, c'est assez comme si je me perds, tu me le dis. Mais en gros, grosso modo, déjà, il y a le côté, je rentre à la fac et moi, je commence à consommer de la sociologie et je suis dans un amphi de meufs. Donc déjà, il y a tout un truc où j'écoute les meufs. Mm-hmm. Ça, je le dis tout le temps dans mes podcasts, tout ça a tout changé. C'est-à-dire que c'est plus je parle avec des meufs, c'est j'écoute des meufs. Quand elles me parlent, quand elles me racontent leurs trucs, que tous les matins, j'entends, elles ont leurs règles, que si, qu'il y en a qui fait ses cheveux et tout. Et j'écoute tout ça.
Donc,
et là,
t'es plongé dans l'univers féminin.
Ouais. T'as plus le même rapport. Je suis archi pas au moment où j'ai pas des mots comme rapport à la masculinité, patriarcat et tout qui viennent encore, c'est pas ça.
C'est le
mais
terrain,
ça change
quoi,
en moi, ouais.
Avec, ouais.
La fleur, elle pose différemment, on va dire. Vraiment, elle prend une autre direction. Et à côté, je rencontre des femmes. Et là, en fait, je pense que c'est... Je sais pas si c'est ce que t'attires ou si c'est le ciel, la vie qui veut ça, mais en tout cas, ça s'est très bien fait. Il y a deux femmes qui ont tout changé. Il y en a une, je lui fais un coucou, c'est... Elle s'appelle Audrey. Et elle, pourquoi elle a tout changé? Parce qu'elle m'a... C'est grâce à cette femme-là que j'ai recommencé à aller au musée.
D'accord.
Ça peut sembler totalement décorrélé de la sexualité, mais en fait, pour moi, c'est que j'ai compris que j'avais le droit de faire des choses que je m'étais interdite à moi.
Pourquoi?
Parce que en jeu de classe sociale, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, tout ça, l'art, tout ça, etc. C'est pas pour nous, en fait. Et là, je commence à aller... Et en fait, quand tu as ce déclic sur un truc si important qui est le rapport de classe sociale, crois-moi que ça change même ton déclic sur... Mais je peux être l'homme que je veux, en fait, tu vois.
Oui,
il y a forcément encore des barrières, mais là, vraiment, ça débloque un truc là-dedans. Et après, il y a une autre femme que j'embrasse, pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je l'ai déjà dit aussi, elle s'appelle Chloé. Et alors là, je te passe, ça se passe sur un an, tu vois. J'ai des aventures, j'ai si j'ai ça. Mais je sais pas, au bout d'un an et demi, deux ans de sexualité... J'ai un match avec une fille qui s'appelle Chloé. Je pète ma tête. C'est-à-dire qu'elle est tellement belle. Je me dis, mais c'est pas possible. Elle a dû matcher par erreur. C'est pas... Elle a pas pu. En gros, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, si je parle pas, l'ego, elle s'intéresse pas à moi. Et c'est pas, je me le dis, c'est factuel. C'est-à-dire, je suis pas le genre de mec qui rentre dans une pièce et on se retourne. Ah, David Beckham et tout. Jamais. Par contre, si je parle, je sais que j'ai.
Tu commences à.
Tu vois, je peux attirer l'attention. Et je me dis, merde, elle m'a pas entendu parler et tout. C'est pas possible. Et donc, je parle, je vérifie. En fait, c'est pas une erreur, tu vois. Elle m'a vraiment matché. Et elle est plus âgée que moi. Et je m'en souviendrai toute ma vie, mais toute ma vie. On a parlé pendant un temps et je lui disais, mais vraiment, je la voyais en cadet. Donc, même les sentiments, ça se confondait dans ma tête. Je me disais, mais t'es trop belle et tout. Genre, enfin, je mettais toute ma séduction possible. Et un soir, je vais au bowling avec des potes. Et quand je suis au bowling, elle me dit, ça dit de passer chez moi. J'ai jamais joué aussi vite au bowling de ma vie. J'envoyais tous les trucs. Je disais, il faut terminer cette partie, les gars, c'est bon et tout. Et je me souviens qu'on monte dans la voiture et on est une équipe de 5 gars. La voiture, elle est pleine.
Bah, oui.
Et moi, j'attends le moment où je dis, ouais, faut me déposer quelque part parce que j'avais pas le permis. Et donc là, on démarre. J'attends qu'on parte pas trop vers le truc et je dis, ouais, vas-y, mais dépose-moi à Victor, s'il te plaît. Et donc là, tous les gars de la voiture, ça fait, on commence à poser dépose-moi à Victor et tout. J'ai dit, vas-y, j'ai un truc à faire. Et moi, je parlais pas des meufs avec mes gars parce que. Tu sais, ce truc que je t'ai dit que j'avais récupéré à la fac de notions différentes. Et du coup, ça, même comment tu vois les femmes. Genre, avant ça, j'étais un petit misogyne lambda, comme je dis toujours. C'est-à-dire, tu grandis avec. T'entends du slut-shaming, de la misogynie de base et tout. Et en fait, ça, je constate que ça a changé. Et j'ai pas envie de parler de femmes avec mes gars parce que j'ai pas envie de rentrer dans ces débats-là encore. Donc, juste, j'en parle pas. Donc, j'ai juste déposé moi la victoire. Bref, on me dépose truc, je monte chez elle. Et là, j'ai compris la différence que c'était le sexe. Et le sexe. Et là, ce qu'elle m'a fait. En fait,
ouais,
j'ai compris. J'ai fait un geste de la main.
Genre
mais
dans la place.
Mais non, là, j'ai compris que. En fait, ce soir-là, je me suis fait baiser. Et je lui ai dit, je lui ai tout de suite dit, mais tu sais que, en fait, même sur ma manière de moi avoir un rapport sexuel avec les femmes, elle a planté une espèce de graine en mode trop de respect parce que, en gros, faut que tu... elle, c'était une dame, tu vois, c'était une femme, et j'étais obligé de la respecter en vrai. À partir du moment où Chloé m'a embrassé et on a fait ce qu'on a fait, je pouvais pas ne pas respecter une femme. C'était fini. D'accord. C'était, je les voyais trop comme.
Il y a eu un avant après quoi.
Ah, il y a eu un avant après Chloé.
Ok.
Et grâce, heureusement pour moi, ça arrivait tôt. Et donc voilà. Et même c'était quelqu'un de, elle, je te dis, elle était plus vieille et elle était bi et tout. Donc.
Elle était libérée. Elle assumait ses envies, etc.
Ça m'a planté un truc où, en fait, ça m'a donné une horizon là où avant c'était juste cliché et le sexe, ça devait être ça. C'est, tu faisais ça par pulsion quoi. Et là, elle m'a, ce soir-là, elle m'a challengé, tu vois. Genre, elle s'est endormie avec moi. Moi, je dormais jamais avec personne, tu vois. J'ai dormi là-bas. Non, c'était, c'est ce qu'elle a fait là, l'empreinte qu'elle a laissée, c'était incroyable.
Cette femme, elle va rester un peu dans ta vie. Ou ça va être
Non, même pas, je te dis, c'est pour ça que c'est encore plus impactant, c'est qu'elle, derrière, elle part très vite, elle change de ville. J'ai contact au sens de... Parfois, je prends des nouvelles et tout, parce que je suis resté grave attaché, mais je veux dire à cette époque-là, mais non, tu sais, elle s'en va. C'est juste, elle a laissé ce qu'elle avait à laisser, quoi.
C'est chouette, cette rencontre.
Ouais, c'est du pain béni.
Et toi, t'as quel âge à peu près à ce moment-là ?
Toi, avoir, je pense, 22 piges. 22, okay. 23 piges, je dois être dans mes premières années de fac, quoi.
Comment la sexualité elle va rentrer, elle va continuer dans ta vie? Est-ce que tu consommes du porno? Est-ce que tu commences à te poser des questions sur des pratiques que tu as envie de faire? Est-ce que tu t'ouvres à d'autres choses? Parce que c'est vrai que toi, ton cheminement, il est collé avec tes combats politiques, ouais. Et tu vois, et c'est ce que tu disais, tu transpires ça, tu vis ça, c'est intimement lié à qui tu es, c'est intrinsèque à la définition de l'homme que tu es. Mais à un moment donné, est-ce que il y a pas une soupape? Est-ce que tu as pas envie de vivre autre chose? Est-ce que tu te dis...
C'est archi intéressant ce que tu dis. Alors déjà, ça me permet de faire un rappel. Je le dis tout le temps dans un egg date, mais là, je vais le dire là. Je me décris pas. J'ai jamais été problématique. Hein. Au contraire. Genre,
non, tu l'as dit là.
Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens de beaucoup de choses et que là, forcément, on raconte l'histoire. Ça peut paraître très beau, amélioratif. Je préfère le dire parce que je sais les privilèges que ça peut ramener. Mais ça a été aussi des évolutions, quoi, grosso modo. Et par rapport à ça... L'espèce de... c'était pas du jour au lendemain. Et par rapport à ça, justement, l'espèce de truc que je me suis rendu compte au cours de cette dernière année qui avait été... C'est un cadeau de fou que m'a laissé Chloé. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, le fait que ce soit lié à mes avancées politiques qui allaient petit à petit. Mais il y a eu une partie de cadeau empoisonné que je ne me rendais pas compte à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, je me suis vachement construit sur le rapport à la femme. Mm-hmm. Ce que moi, je donne. Et du coup, je me suis construit où ma sexualité, c'était donner. Sans. Mais en fait, grosso modo, quand t'es à la fac, que grosso modo, les filles que tu croises, elles ont l'habitude de tomber sur un bout cliché qui sait même pas identifier un clitoris. Quand t'es tombé sur un bout comme moi, qui a l'air à peu près... en tout cas, qui était plus à l'écoute, forcément, elle se laissait faire. Mmh. Je veux dire, elle se laissait faire dans le rapport à le sexe et vers elle, tu vois. C'était unilatéral. Et en fait, petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis enfermé dans une espèce de cage dorée où je ne laissais pas accès à moi. Et moi, en plus, j'avais un rapport à la pénétration qui était compliqué. En gros, que je ne voulais pas pénétrer avec mon sexe. Et en fait, sauf que pareil, cadeau empoisonné, du coup, le truc politique et le truc aussi que j'ai hérité de Chloé et tout, je me cachais ça derrière les bonnes raisons. Parce qu'il y a des bonnes raisons à ça. En mode, le sexe ne doit pas forcément être hétéronormé. Ça passe pas que par là.
Bien sûr.
Mais en fait, je me cachais là-dedans.
À l'inverse, ouais.
Et ça avait des côtés graves positifs. Je le regarde pas parce que ça m'a permis, comme j'ai dit, d'être à l'écoute de femmes.
Et puis de découvrir une sexualité plus slow. Plus
exactement.
Cool, ouais.
D'avoir une sexualité qui était différente et tout. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas l'angle mort, je ne me connaissais pas. Et donc du coup, je me souviens même d'une soirée avec une de mes meilleures amies, Océane, et elle pète sa tête en la soirée, elle me dit, mais je lui raconte un truc que j'étais avec une meuf. Elle me dit, mais putain, mais comment tu fais pour pas pénétrer? Enfin, les meufs, elles ne te demandent pas. Et je lui disais, non, je te jure, genre... Parce que moi, je fais pas différence d'intensité, tu vois, pour moi, je fais l'amour, tu vois, quand même. Et du coup, c'est naturel, en fait.
Et c'est, oui, c'est, j'allais te poser la question, les nanas, parce qu'il y a, il y a plein de femmes qui aiment la pénétration et c'est, tu vois, et qui pourraient te, te demander aussi.
Je pénétrais avec mes doigts et je léchais, tu vois. Mais non, et ouais, et c'est, et je savais pas y répondre à l'époque, je disais juste, ben non, mais je sais pas, c'est naturel, on me demande pas. Alors il y a deux cas, c'est soit elles étaient frustrées, elles me le disaient pas, mais je pense que j'ai installé une
confiance,
une communication qui était présente, donc. Elle me l'aurait dit, il y a déjà des femmes qui m'ont dit « Ah, pour moi, c'est très important. » Mais je pense qu'il y avait ce truc, comme on était au même âge, ces femmes-là et moi, on découvre encore notre sexualité, qu'elle aussi a découvert autre chose et qu'elle a découvert un truc cool, grosso modo. Parce qu'en vrai, quand j'écoutais, je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui acceptaient de lécher. Il n'y avait pas beaucoup, tu vois.
Mais du coup, tu n'éjaculais pas.
Si, mais...
Mais pas en pénétration
vaginale. Ouais, pas, soit pas en pénétration, soit en effet, il m'arrivait des... En fait, il m'arrivait des actes sexuels où moi, on me faisait rien du tout.
Ok.
Ou soit, oui, où je finissais pas, tu vois, grosso modo.
Ok.
Et donc, du coup, c'était comme ça. Et je me suis construit dans ce rapport-là et tout. Et donc, je sais plus ce qu'était ta question, mais ça se matérialise en... Je présume que dans certains répertoires, j'étais Emmerich, on va appeler le gars qui lèche, tu vois. Grosso modo, il devait avoir l'emoji langue à côté de moi. Mais même pour le coup, je te dis, là, plus on a grandi, le groupe de potes s'est restreint, donc il reste que quelques têtes autour de toi. Je parlais pas de cul avec mes potes, mais forcément, t'en parles quand même de temps en temps. Et mes potes commencent à me catégoriser aussi comme Emmerich, c'est le lécheur.
Ah, d'accord.
Tu vois. Mes parents, je leur ai pas dit que je pénétrais pas.
D'accord.
Ce qui prouve aussi encore un rapport à masculinité.
D'accord, donc ça, t'avances. Et à quel moment, justement, il va y avoir ce déclic où tu te rends compte que peut-être ce serait pas mal que ce soit un partage, cette relation sexuelle, et pas forcément dans un sens?
Eh bien, c'est assez fou et c'est aussi très significatif de la masculinité, parce que la masculinité, on a l'impression qu'on peut confier notre tendresse et notre rapport à la douceur que quand, en gros, c'est ta meuf, que quand t'es amoureux.
The one, quoi.
Ouais, exactement. Mm-hmm. Et moi, le truc, c'est que j'avais des romances. J'ai connu des femmes, j'ai vécu ma vie, j'étais grave heureux et tout. Mais le couple, c'était un truc particulier, j'avais jamais été en couple, tu vois.
Tu l'expliques, ça ?
Ouais, je pense qu'il y a une partie de toute l'iconographie des films, de ce que tu viens de dire, The One, tu vois, qu'il faut réserver ça. Il y a une partie très culturelle aussi, de où je viens, c'est un truc sérieux, etc. Et après, il y avait la liberté, tu vois. Genre, j'étais bien, moi, mes dates et tout, c'était... Parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que comme je viens d'un foyer taciturne, avec mes potes, je pouvais pas parler de certains sujets. Moi, le lieu de date, c'est là où je me suis forgé politiquement. C'est là où je me suis incarné, tu vois. Où j'ai pu... C'est
échanger,
en date que j'ai compris que j'étais pauvre encore plus, qu'il y avait des enjeux. C'est en date que j'ai compris que j'étais blanc, que j'avais des privilèges sur ça. Quand j'étais dans un couple mec, c'est en date que j'ai compris que j'étais un homme, tu vois, et que j'avais des privilèges. C'était vraiment un terrain d'expérience. C'était pas arrivé au point où je me disais, je vais l'apprendre comme une expérience et aujourd'hui, je vais me découvrir. Mais intrinsèquement, ça me nourrissait, donc j'étais en train de découvrir. Et puis un jour, et donc là, on est beaucoup plus tard, hein, j'ai... En gros, là, on arrive vraiment vers mes 27 ans.
Ouais.
Ouais, c'est ça, c'était il y a 3 ans de ça. Et il y a 3 ans de ça, je tombe amoureux pour la première fois. Et je suis en couple avec une personne divinement exceptionnelle.
Mm-hmm.
Et un jour, en plein acte sexuel, après un acte sexuel, elle s'arrête et elle me dit « Bon, Emmerich, il faut qu'on parle d'un truc et tout. » Elle me dit « Enfin, franchement, c'est super. » Je kiffe faire l'amour avec toi et tout, mais tu ne me laisses aucun accès à toi.
Ah.
Et là, parce que là, du coup, là, il y a le bruit de, tu sais, les bruits de verre qui se cassent, parce que vraiment, là, par contre, on n'est jamais fini d'être déconstruit et tout. Évidemment, c'est une fumisterie, la déconstruction, mais t'attendais ça, un seuil de maturité. Et moi, dans mon rapport à la sociologie, à la politique et tout, 27 ans, j'avais un certain seuil de maturité sur certaines choses. Et donc là, ouais, bruit de verre qui se casse parce que je prends conscience de ce qu'elle vient de me dire, en fait.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble à ce moment-là ?
Bah, en plus, c'est très intéressant que tu poses ça parce que notre relation a commencé à distance. On s'est croisés une fois, elle est partie loin. Et quand elle était loin, on avait forcément des discussions sur la sexualité. Et elle m'avait dit, la pénétration, ça compte pour moi. J'étais en tachycardie. Je me suis dit, mais attends, mais je l'aime. Donc là, là, en fait, tu vas passer par le challenge, tu vas vouloir te challenger. Et la première fois qu'on l'a fait ensemble, il y a ce truc très marrant. En fait, j'habitais chez deux de mes meilleurs amis quand je venais sur Paris. Je faisais les allers-retours. Et donc, mon premier date avec cette fille se passe hyper bien. Et en fait, elle me dit « Ah, mais ma mère a un appart près de Paris. Est-ce que ça dit qu'on y aille ce week-end et tout ?» Et je dis « Ouais, trop cool et tout. » Je rentre. Je dis à mes copines « Oh putain, elle m'a dit qu'on allait aller en week-end et tout. » Elle m'a dit « Ah ben, ça y est, ça va se faire alors. » Et moi, je suis naïf. Le même Emric qui était du plus loin, je disais, se faire quoi ? Mais non, pas du tout et tout. Enfin, juste, on va kiffer et tout. Elles m'ont dit, hey, gros, ça fait 8 mois, vous parlez à distance, là, vous rentrez. Elle va te baiser, genre, c'est sûr, tu vois.
Je cherche pas.
Et là, ça commence à rentrer à ma tête. Je me souviens, j'étais dans le train, j'étais en tachycardie, j'étais en PLS et tout.
Mais est-ce que tu peux. Je sais que c'est compliqué hein, d'avoir ce recul-là, mais qu'est-ce qui te fait. Qu'est-ce qui t'inquiète dans la pénétration ? Est-ce qu'il y a. C'est symbolique ? Est-ce que c'est physiologique ? Est-ce que c'est ce que ça représente en tant qu'homme de pénétrer une femme ? Est-ce que tu arrives un peu aujourd'hui à le...
Ben c'est archi intéressant que tu poses la question parce que dans ma tête, c'est tellement obvious que j'oublie de le préciser. Mais oui, alors j'en ai pris conscience aussi avec une thérapie en prenant du recul dessus, mais c'est le fait... Donc, petit flashback, mais en gros, moi, je grandis dans un truc très... Mon rapport à la douceur... quand je rentre au collège, il m'est arraché. Genre, il n'y a plus de douceur. Mais quand je te parle de ça, je te parle même au sein de mon foyer ou quoi, il n'y a plus de douceur. D'accord. Donc, je me construis sans douceur, etc. Sans que ce soit traumatique à ce moment-là, parce que je ne conscientise pas, mais je me construis comme ça. Et en fait, grosso modo, je n'ai pas de vie sexuelle avant très tard aussi. Et quand tu as besoin de douceur, quand tu es petit, ça va être les câlins des gens, etc., que tu vas avoir. Quand tu commences à devenir ado et pré-adulte, tu vas remplacer ça par une copine avec qui tu es proche. Et ça peut passer par le sexe. Moi, je me suis construit, moi, j'avais pas de rapport à la douceur. Et ça veut dire que quand j'étais triste, ça devenait très... j'étais pas triste, j'étais énervé. Donc du coup, déjà, mes premiers rapports à la sexualité, c'est que quand je ressentais de la tristesse, j'étais énervé, j'allais baiser énervé. Il n'y avait jamais de douceur, tu vois.
Ouais.
Moi, le sexe, c'était un exutoire à ce moment-là. Et en fait, là où... sauf que quand tu commences ta sexualité, grosso modo, tu commences par quoi ? Le missionnaire et tout, ça signifie être proche de quelqu'un. Mais moi, c'était inconcevable. Oui, James Bond, tu vois. Je pouvais pas être.
Tu pouvais pas être câliné, tu pouvais pas être. D'accord.
C'était inconcevable. Mais tout ça, je te dis, c'était inconscient. Et c'est pour ça que j'ai mis cette distance avec ça. Avec pénétrer, pour moi, c'était égal à douceur.
C'est l'ultime.
Ouais, tu vois, okay. Il y avait ça. Et après, je pense qu'il y a aussi une injonction qui s'est croisée à un moment donné où, quand même, tu vois, de temps en temps, j'ai essayé de le faire. Mais comme tu le fais pas souvent. Tu tires vite. Mm-hmm. Et comme à l'époque, j'étais encore jeune, je me disais, ah ouais, nul. Donc du coup, je ne vais pas dans une zone où j'échoue.
On reste toujours là où on maîtrise le sujet.
Et comme on te dit que tu maîtrises les doigts et la lèche, reste là, tu vois, frérot.
C'est ton domaine.
Et grosso modo, je me construis là-dedans. Et donc du coup, quand ma meuf de l'époque me dit ça, là, j'ai un déclic. Et elle, en plus, elle met une pression, mais qui est positive. C'est qu'elle me dit, mais en plus, on a le temps. Ouais. En gros, limite, la vie de ma mère, on va apprendre, tu vois. Il n'y a pas, chez moi, il n'y a pas de... En gros, c'était magnifique ce qu'elle me proposait. Ce qu'elle était en train de me dire, c'est qu'il n'y a pas de notion de performance, il n'y a pas de notion, on est nous deux, j'ai envie de toi. On va, tu vois, à ton rythme en plus. Genre, c'est OK si ça t'évoque d'autres choses. Mais,
tapis rouge.
Ouais, tapis rouge de fou à cette personne. Et malgré tout, c'est dur pour moi. Genre, j'y arrive pas. Il s'avère qu'ensuite, notre histoire se finit. Et pendant un an, je date personne. Et on se retrouve en période du Covid. Et je me retrouve à rencontrer une meuf où ça faisait 10 piges qu'elle était avec son mec et elle vient de le quitter, tu vois. Et donc, du coup, en gros, grosso modo, elle me dit ah, moi, j'aime encore mon ex. Je dis ben, moi, j'aime encore mon ex aussi. Mais du coup, il y a un terrain d'entente.
Passion commune.
Tu vois, exactement. Mais du coup, ça nous libère et tout. Et donc, on a ce truc de on va recoucher avec quelqu'un avec qui on n'a pas couché depuis longtemps, tu vois. Alors, elle encore plus.
Ouais. Vous partez en mode sex friend direct.
Ouais, on part à notre ça relation, c'est comme ça. Et en gros, elle m'invite. En fait, c'est juste qu'elle m'invite chez elle pour un date. Et donc, période de Covid, en gros, elle me dit oui. Mais tu vas rester dormir, en gros. Et donc, un an après cette phrase de tu me laisses aucun accès à moi, je suis au lit avec cette autre fille et elle me fait un truc banal, tu vois, quand elle me suce, pour être concret. Et sauf que ça, moi, mon corps, il le supporte pas. Comme en gros, ça c'est, je sais pas, ça rentre dans la zone intimité douceur et mon corps, il supporte pas. je masque le truc, je continue l'acte sexuel et tout, parce que...
Ouais, mais
je vois, tu
t'as vrillé, ouais.
Et le lendemain, j'en parle, parce que je suis quelqu'un qui... Par contre, j'arrive à
t'as verbalisé
ouais,
ça.
J'ai pas de... Sur ça, j'ai pas de complexe, j'ai pas d'ego moi, dans le sexe. Donc, je peux avoir une panne ou quoi que ce soit, j'en parle.
Mais c'est hyper intéressant, parce que autant ton corps accepte pas la vulnérabilité, autant tu peux le verbaliser.
De fou.
Alors que...
Je crois que ça a été... En fait, c'était pour m'éviter de travailler sur ma vulnérabilité de mon corps, ouais. J'ai été capable d'être très vulnérable dans mon approche...
Dans ton discours.
Ouais, sémantique et tout. Et donc là, je lui dis et tout. Elle m'a dit, ah ouais, mais tout, c'est vrai, ça m'a surpris parce que pour moi, c'était un truc normal et tout. Mais bon, je me suis dit, vu que ça fait 10 piges, j'avais pas connu d'autres mecs, peut-être que non. Et je lui dis, non, je pense que c'est un sujet de mon côté. Et donc là, ça a commencé à me travailler dans la tête et je commençais juste la thérapie avec ma psy. Donc là, ça a commencé dans ma tête à me travailler ce rapport-là. Et en gros, la finalité de ça, c'est que, ben en vrai, ça fait que un an où vraiment j'ai évolué sur ma sexualité. Et ça me permet de, je pense, boucler la boucle du sujet que je te disais, tu sais, sur le rapport au sexe et comment tu te définis avec les hommes. C'est qu'il y a un an, après avoir fait des progrès sur plein de choses, je me suis rendu compte au cours de cette année, via des remarques de certaines femmes, d'un truc. Et plus ma conscience politique qui était un peu plus aiguisée, c'est qu'en gros, alors je mets un trigger alerte, parce que souvent sur ces sujets-là, on peut croire que je vais dire ça pour me faire mousser, c'est pas du tout le sujet, d'ailleurs c'est un sujet où en vrai on devrait même pas être fier de ça, je vais parler de la taille du sexe, tu vois.
Okay.
Et en gros, cette année, j'ai une première remarque d'une meuf qui me dit ça au lit, mais moi dans ma tête, c'est du trash talk.
Ok.
Elle dit ça pour l'ambiance, tu vois, pour le folklore. elle dit ça parce qu'elle est dans son délire et truc. Mais c'est très marrant parce que, par contre, je commence à rentrer chez moi. Et là, comme je t'ai dit, j'ai un background politique qui est autre et j'ai un regard sur moi qui est autre. Et je commence à me dire, ah, mais c'est marrant, mais pourquoi je le crois pas? Genre, pourquoi je le prends pas premier degré?
Pour les gens extrêmement prem-dug qui sont pas comme toi dans des envolées lyriques, grosso modo, elle te dit, t'as... Une
ah oui, pardon. Elle me dit oui, elle me fait une remarque sur la taille de mon sexe.
Désolé, moi
est...
je reste vraiment.
Non,
sur
t'as raison, t'as bien raison. De... Parce qu'en plus, moi, tu sais, parfois j'ai des relents de gêne sur ça.
Vous le voyez pas, mais il est showman, il vit le truc.
Et je j'ose pas dire les termes. Mais oui, grosso modo, elle me dit, je vais oser dire la phrase, j'ai dit que je me challengeais cette année sur ça.
Vas-y.
Elle me dit, t'as une très belle queue. Et en plus, je vais te dire, c'était une anglophone, donc elle me le répète en anglais.
Ah pas mal. Chic. Excitant.
Donc ouais, et donc mais moi dans ma tête je le reçois vraiment comme c'est pour le folklore, tu vois. Genre elle le dit de trucs. Mais je rentre chez moi, je me pose la question, je me dis tiens, c'est marrant. Et là je commence à me rendre compte que je suis très à l'aise à faire des compliments aux gens, à leur dire plein de trucs, mais que par exemple un truc que je fais souvent sur scène parce que je monte sur scène, j'ai un petit passage marrant dans mon spectacle, je dis ouais, moi je suis un faux beau. Mon rapport à la beauté, c'est une course. En gros, tant que je parle, que je cours, je parle, je m'agite, je parle avec mes bras, les gens se concentrent sur ça, ils me trouvent beau. Mais si je m'arrête et qu'ils me fixent, ils voient que je suis un faux beau, tu vois. En gros, je suis l'ancien plus moche de la classe, grosso modo. Et en fait, là, je commence à me gratter la tête. Je me dis, ah ouais, mais sur les compliments, tu les prends pas au sérieux. Genre, tu mets toujours une distance, et sur ça aussi. Et sauf que cet épisode-là, avec la fille, ce qu'elle m'a dit, c'est répété même avec une non-anglophone et tout, jusqu'au jour où. Je couche avec une des meilleures amies de ma meilleure amie. Et bon, avec ma meilleure amie, on est très à l'aise. Et un jour, elle revient, elle me dit, ah ouais, nanani, elle m'a parlé de elle toi et tout. Elle a dit un truc, faut que je te dise, c'était trop gênant et tout. Je t'y crois. Et donc là, en fait, je me rends compte que c'est sérieux parce qu'il y a une meuf.
Oui, qui l'a dit dans un.
Qui l'a dit à sa meilleure amie.
Ok. Et
là, elle a aucun intérêt.
Il y a pas de folklore.
Il y a pas de folklore. Donc là, je commençais à me dire ça. Et en fait, et parallèlement à ça, il y a une fille que je connais depuis très longtemps qui, en gros, m'envoie des nudes et je me sens grave à l'aise avec elle.
Avec consentement, bien sûr, le nude. Hein.
Oui, évidemment.
Toujours. Hein.
Toujours, toujours. Et donc, elle m'envoie pas mal de nudes et je me sens grave à l'aise avec elle sexuellement. Et j'ose lui envoyer ma première nude. Et donc, ça se passe grave bien, tu vois.
Alors, juste petit, comment on fait un bon nude quand on est un mec? Parce que j'ai eu pas mal de gars à ce micro qui sont genre, ouais, mais non, moi je sais pas, c'est pas le corps d'un mec.
Moi j'étais de la même école avant, je me disais c'est pas intéressant, c'est pas.
Je crois que t'en as parlé avec Léa de.
Ouais, je lui disais, mais tu vois, c'est pour te dire, c'est récent. Et je lui disais, mais y a rien à envoyer, tu vois, c'est pas créatif et tout. Mais donc du coup, non, en plus, je pense que c'était même pas beau, j'ai fait un truc lambda. Et pour le coup, je vais même te dire, j'ai envoyé une vidéo, j'ai pas envoyé une photo. Parce que la photo, je trouvais vraiment, il n'y a rien à
le
exploiter
mouvement,
pour un mec.
Toujours.
Voilà, toujours le mouvement. Et ouais, c'est vrai ça. Mais du coup, ça se passe grave bien. Et donc là, en fait, je commence à entendre d'autres phrases. Et cette année.
Toujours sur ton anatomie.
Ouais, sur mon anatomie. Et même, il y a des femmes qui commencent à me dire des trucs sur mon corps. Alors que c'est la première année où je fais pas de sport et c'est la première fois de ma vie où je suis mal à l'aise dans mon corps, moi. Malgré tout, on me fait des compliments que j'ai jamais entendus. Et donc, du coup, je commence à m'interroger sur ça. Et là, en fait, j'ai le déclic de dire la conclusion de ce truc. C'est qu'en fait, et revenir à la phrase de Virginie Despentes du début d'épisode, c'est qu'en fait, je m'étais construit par rapport à ce que les mecs, eux, rejaillissaient sur moi. Et il y a un autre truc qui est très important, c'est que moi, j'ai grandi avec, dans un environnement, pas forcément mes amis proches, mais dans un environnement où il y avait beaucoup de racisme intériorisé, tu vois, chez certaines personnes. Et moi, j'ai toujours fréquenté des personnes de tout horizon. Mais eux, ils donnaient pas de la valeur aux femmes que je fréquentais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'ils les trouvaient pas belles, en gros.
Ah.
Et du coup, comme ils les trouvaient pas belles, les femmes que je fréquentais ne comptaient pas. Et comme les femmes que je fréquentais ne comptaient pas pour eux, Emery qui fréquentait pas de meufs. Et en fait, ce truc-là de rapport à mon corps et au rapport à ma taille de sexe, je me suis rendu compte que sur tout ça, je me suis construit par rapport à comment, dans la masculinité, tu vois, et comment les mecs me voyaient. Et c'est fou, genre, du coup, j'occultais tout. Les gens avec qui je couche vraiment, avec qui ça se passe bien, avec qui je parlais, etc. Les gens qui me faisaient des compliments, ça, j'y croyais pas. Pour des mecs qui ne me voyaient jamais nu, finalement.
Et qui te connaissent pas. Et qui...
Ouais, et qui m'ont jamais vu. C'est quoi l'expression anglaise ? Quand tu...
Shower, grower.
Ouais, shower ou grower, tu vois. Ils m'ont jamais vu comme ça. Et en fait, c'est à eux que j'accordais de l'importance.
C'est
et c'est pour ça que ça me permet de dire à tous les mecs, eh, vraiment, il faut qu'on prenne du recul sur notre masculinité, parce que je te jure qu'on se construit jusqu'à dans notre sexualité vis-à-vis de ça.
C'est là où tu définis parfaitement la masculinité toxique, du coup.
Pour le coup, ouais.
La toxicité que ça peut être et l'impact que ça peut avoir quand t'es jeune garçon, pré-ado, ado, même jeune adulte, où effectivement... Tu te rends pas compte effectivement de que ton intimité et ton chemin personnel a mille fois plus de valeur que ce que on va te donner, le poids de la société, etc.
Tu te construis par rapport au monde, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Et du coup, tu fais plus attention au monde qu'à ton intimité. Et du coup, ton intimité, limite, tu la construis pas, comme moi, c'était le cas. Et donc là, du coup, depuis un an, je commence à faire attention à ce que j'aime sur ma sexualité.
Donc là, ça y est, tu donnes de l'importance beaucoup plus à ta pratique à toi et pas forcément à un mode d'emploi et une autiste que tu pouvais reproduire. Du coup, c'est quoi ta sexualité aujourd'hui ? Donc, tu as plusieurs partenaires, tu multiplies les partenaires, tu es en couple.
Alors,
it's complicated.
Non, j'ai tiqué sur le mot multiplier, mais ça, c'est mon côté anticapitaliste qui revient.
Ah, sorry.
Non, mais en vrai, c'est de la faute de personne, dans le sens que c'est monnaie courante, tu vois, de nos langages, notre langage amoureux pour le coup. Non, je suis. Bah déjà, un des trucs qui a été avec ma sexualité, c'est que j'ai réussi à assumer auprès de moi-même que je pense que j'aimerais essayer. Enfin, oui, allez, je vais dire différemment, que j'aimerais essayer une relation libre. Pas pourtant pour le côté. Je suis pas dans ce truc. Justement, j'estime avoir été assez heureux, tu vois, sexuellement. Quand même, j'ai connu plein de trucs et tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le côté que tard. En plus, c'est pas que ça, c'est un cliché, les relations libres. C'est plus le côté autour de la communication, ce qui peut être disponible là-dedans. Et non, et ma situation, elle est que je...
Tu dates.
Ouais, je date. Je date après. Et c'est pas pour cacher, parce que je suis mal à l'aise de parler de ça. C'est que mon année, l'année qui vient de se passer depuis que je suis sur Paris, liée à mon transfuge de classe, ça a compliqué mon rapport au dating.
Okay.
J'arrive moins à me situer sur plein de trucs, plus l'image publique avec un date et tout. Donc ça, c'est plus ça qui a embourbé mon rapport au dating, qui fait que j'ai moins daté ces deux dernières années.
Pourquoi ? C'est parce que tu as l'impression que c'est moins authentique ?
C'est d'abord une question de moi, de responsabilité politique, que je me mets en mode vu le métier que tu fais. En gros, grosso modo, tu vois, je suis un homme qui parle de rapport à masculinité et qui semble déconstruit. Donc, je sais très bien que à mesure où... c'est ça qui fait la différence entre une femme et moi, c'est qu'une femme qui est féministe, le fait qu'elle se batte pour ce qu'elle est, ça lui fait perdre des points encore auprès de la société parce qu'on l'insulte. Moi, le fait que je me batte pour ce que je suis et pour une masculinité différente, ça me fait gagner des points, tu vois. Donc, je reste privilégié. Mmh. Et en fait, moi, je suis très vigilant de ça. J'ai pas envie d'entretenir ces privilèges en baisant plus grâce à ça, grosso modo, tu vois. Donc, je me suis un peu éloigné du date.
On ne citera personne qui...
Ah. Il y en a. J'ai des visages qui s'éclairent dans ma tête, mais Mais donc déjà, je me suis un peu éloigné de ça. Mm-hmm. Ça va, tu vois, je commence à me réconcilier avec des trucs et tout. Mais voilà, je prends le temps aussi de me poser des questions. Donc, tu vois, les questions qu'on posait, mais qu'est-ce que tu aimes sexuellement, ouais. Ça, comme ça, je me dis, quand je vais vers une personne, je suis à même de lui dire, ah, j'aime ça. Et
tu sais un peu, si tu as envie d'explorer des choses, des sexualités un peu alternatives, des pratiques, est-ce qu'il y a des... Tu vois ?
Je me mets aucune barrière parce que... Et d'ailleurs, j'aimerais que les gens arrêtent de parler de sous des étiquettes sur la sexualité. Pour moi, sexualité, c'est un spectre.
Ok, waouh. Attention, donc, ici, papa, parce qu'ici, ici, je pense que c'est un endroit. Il y a une espèce de curseur de vanille, sexualité un peu okay. Plus trash, etc. Donc, sexualité vanille, c'est la sexualité un peu plus classique, tu vois. Après, il y a ce micro des hommes qui ont des sexualités... BDSM++,
okay.
Des dominants, des hommes qui sont soumis, d'autres qui ont des orientations diverses. Mmh. T'as vraiment, vraiment un panel. Donc du coup, est-ce que toi, t'as des pratiques qui t'intéresseraient plus, sans parler forcément d'orientation, choses comme ça, mais...
Eh bien, ouais, je pense que j'ai pris conscience qu'il y avait le... Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de... Non, alors... Ce que je dois situer, c'est ce qui est très marrant, c'est que comme j'ai un côté, comme tu l'as dit à un moment dans l'épisode, très innocent, il y a récemment, j'ai eu une conversation sexuelle avec une personne et elle m'a dit « qu'est-ce que t'aimes ?» Et je lui ai dit « ah ben en vrai, moi je crois que j'aime le trash talk. » Et je lui ai dit « mais de toute façon, on l'a déjà fait. » Elle me dit « quoi ?» Et je lui ai dit « bah oui, à un moment je t'ai dit ça, tu vois, au lit. » Elle m'a dit « mais c'est pas du trash talk ça. » Genre en gros, c'est... Donc déjà moi, parfois, tu sais, ça se trouve sur ton curseur, j'ai l'impression de me placer en sexualité ananas, c'est un truc de fou. Alors pour les gens, c'est de la vanille, tu vois, vraiment. Donc ça, c'est déjà, c'est très drôle pour moi encore.
Le curseur est vraiment...
C'est très drôle pour moi. Ouais. Mais non, bah déjà, je pense que j'ai à cœur d'essayer de me challenger et d'explorer la pénétration.
Ouais.
C'était le gros cœur de l'épisode, donc ça, le confirmer. Et paradoxalement à ça... Alors, c'est marrant, je dis que c'est paradoxe, mais non, justement, il faut en finir avec ce cliché. Mais de m'accorder plus de douceur. Mm. Mais c'est un enjeu qui est compliqué parce que, à la fois, je souhaite arrêter avec ce truc très masculin de cristalliser la douceur, doit être forcément là dans l'intimité. Tu vois, cette année, j'ai rencontré une fille avec mon podcast et elle m'a dit, tu sais, depuis que je fréquente des femmes, le truc qui a le plus changé, c'est que même pour un rapport d'un soir dans un plan cul, quand je couche avec une femme, il peut y avoir de la douceur. Mm. Et ça, je trouve ça trop bien, tu vois. Moi, c'est un truc... auquel j'y arrive dans la communication, dans l'espace et tout. J'aimerais y arriver au niveau du cul aussi. Mais par contre, il y a ce truc-là à la fois où tu as envie d'explorer cette douceur avec une partenaire qui te connaît plus parce que ça livre en toi des failles. Et enfin bref, j'essaie de trouver un équilibre. Mais du coup, ouais, je dirais pénétration. Je suis très, très... je pense que ça fait partie de la sexualité. Il ne faut pas que j'oublie de le dire. Mais en fait, je suis très branché, écrit. Mmh. Et tu sais, planter un décor avant
la scène, le
ouais,
cinéma.
Tu vois, le écrire le truc, dire à la personne les jeux comme ça, tu vois. D'accord. Je suis sur ça, ouais.
C'est quoi le rapport que tu as avec toi aujourd'hui, avec ton corps à toi?
Et ben là, en vrai, je pense que c'est l'année où je me suis le mieux senti, tu vois.
Ouais.
Ça va au-delà du corps, je pense que forcément c'est lié dans ma tête. Genre, plus que jamais, je m'incarne et je sais qui je suis, mmh. Et ça sent dans mon corps.
Et quand tu te regardes dans la glace, tu te trouves comment?
J'ai toujours cette théorie du faux beau. Mais je me dis que je suis peut-être le plus beau des faux beaux. On va le dire comme ça.
Après, la douceur, elle peut commencer là aussi, tu vois.
De quoi ?
La douceur, elle peut commencer là.
De fou ? Ben ouais, ouais. Moi, elle passe par commencer à accepter les compliments qu'on me fait.
Mm-hmm.
Mais non, dans ma glace, aujourd'hui, tu vois, j'ai repris le sport, je t'ai dit, j'avais une année qui était compliquée à ce niveau-là. Et même, en fait, j'ai vu que dès lors que j'ai commencé à accepter les compliments qu'on m'a fait, je voyais que c'est moi qui étais trop sévère durant cette année-là avec mon corps. Donc non, je suis archi à l'aise et je pense que ça se ressent, tu vois. Mm-hmm. Il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Putain, mais toi, quand tu marches comme si tu avais raison. » J'ai dit « Ah
!» Il faut toujours partir du principe qu'on a raison. Ça, c'est un truc de lion. Top, Emeric. Et on va bientôt terminer l'épisode. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs et auditrices ?
Ah ben, je pense que d'abord aux gars, je leur dirais que remets-toi devant le miroir et réfléchis pour qui tu baises. Vraiment, tu vois. Pour qui tu le fais ?
Mm-hmm.
Est-ce que si... Je sais très bien que les gars, ils vont reconnaître ce que je dis, que... même pendant un acte sexuel, t'as déjà pensé à, tu vois, t'as déjà pensé à des trucs de, ah, t'as pas pensé forcément à tes gars pour m'en parler directement, mais à un truc de performance. En fait, tous ces trucs d'image sont liés à la masculinité. Mm-hmm. Donc réfléchis pour qui tu baises. Et pour les personnes, pour les femmes ou personnes non binaires, le conseil que je donnerais, c'est plus un conseil. Je me permettrai pas, tu vois, parce que je connais pas leur situation, mais ce que le conseil que je donnerais à la société, c'est bah, y a un livre de Bellux qui s'appelle La volonté de changer, et Bellux en tant que femme parle aux femmes ou à des personnes qui s'identifient comme femmes. Elle dit qu'elles ont aussi peut-être une part du travail sur la place émotionnelle qu'elles laissent aux garçons. Mmh. Et du coup, voilà, faire attention parce qu'on est des êtres, on vit dans une société, on est des êtres poreux, ça veut dire que la société nous infiltre, on se façonne à mesure qu'on façonne la société et les gens. Donc forcément, il y a des choses qui t'ont imprégné, que tu as pu prendre des mauvais réflexes, toi aussi de masculinité, même si tu es une femme. Et du coup, faire gaffe, tu vois, de bien se rendre compte pourquoi, qu'est-ce que j'attends d'un mec, que je fasse, je me comporte pas avec un mec de manière contraire à ce que j'aimerais dans mes plus grands rêves, grosso modo. Mm-hmm.
Quel sera le mot de la fin pour toi ?
Ah, soyez gentil.
Et tu sais quoi, j'allais dire, moi, mon mot de la fin, je le fais jamais, mais je vais lire ce que t'as à casquette. Ah. C'est « Kindness is sexy
». Ben, en vrai, ouais, franchement... Soyez gentil, et être gentil, ça passe aussi au lit, tu vois. Mm-mm. En gros, tu peux, grosso modo, je vais parler cash, mais tu peux être dans le sexe le plus bestial possible et baiser et quand même être gentil, parce que être gentil, c'est être à l'écoute. Mm-mm. Et ça, pour moi, si je dis toujours les trucs de mauvais coup, faut arrêter, ça n'existe pas, ça existe sur un truc. Il y a un truc où tu peux être, c'est pas un mauvais coup, c'est juste que tu peux être une merde humaine si t'es pas à l'écoute d'autrui. Tu seras à l'écoute, tu seras forcément. Et ça t'offre une horizon quand tu commences à écouter. Moi, ça a changé ma vie quand j'ai commencé à écouter des femmes d'abord dans un amphi. Forcément, après, tu les écoutes au lit. Et quand tu les écoutes au lit, ben, tu t'écoutes plus la société, je pense, ensuite. Donc, soyez gentils et écoutez les gens.
Merci, Emery.
Merci à toi.
Merci encore à vous pour votre écoute et merci à Emery, vraiment. Et j'en profite pour vous dire que le podcast a été lancé en février 2019 et qu'on commence bientôt 2024. C'est incroyable. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci d'être toujours là au rendez-vous. C'est un podcast qui existe grâce à vous, tout le mérite vous revient du coup. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou sur Discord aux auditeurs et auditrices avec qui on échange régulièrement sur les épisodes. Et surtout, je compte sur vous pour des pluies d'étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Ça aide ce podcast à gagner en visibilité. À très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.